Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Une voix haute, quasi miraculeuse, qui surprend souvent, interpelle toujours. On connaît bien ce timbre de voix aigu rendu célèbre par le film historique retraçant le parcours du chanteur Farinelli. Le temps des castrats est heureusement fini et les hommes peuvent eux aussi être naturellement pourvus de ce don. Dans le cadre des fêtes d'été de musique ancienne qui se déroulent à Prague, le haut-contre français Gérard Laine a donné un récital proposant des compositions baroques françaises et italiennes. Autodidacte, Gérard Laine étonne et ravit par sa liberté de propos. Ayant lui-même commencé par le rock, le jazz ou la musique électronique, il s'insurge contre les petites cases réductrices où l'on veut enfermer les artistes. La preuve par le son avec un extrait de son album Human.
Ich war sein Kind, so wohlgetan. Virgo dum floribam.
Un parcours atypique pour ce haut-contre dont le destin a été conditionné dès le départ par une singularité, la découverte d'une voix.
Moi j'ai eu une grande chance. J'ai démarré en fait la musique tout court, on va dire, à l'adolescence, au moment où ma voix, j'ai eu une nue en fait très facile, mais j'ai gardé ma voix d'enfant, j'ai gardé ma voix de soprano, et ça je pense que toute ma vie a été axée sur ce qui m'est arrivé. Donc j'étais pas spécialement intéressé par la musique classique étant enfant. J'ai fait par ma famille, j'ai fait du piano, j'ai fait un peu de guitare classique aussi, mais j'avais pas du tout le feu sacré pour la musique classique. Alors des voix aiguës comme la mienne dans la musique, on va dire des années 70-80, il y avait plein de voix aiguës masculines. Si on écoute bien, je sais pas, ne serait-ce que les nonnes ou enfin, tous les groupes avaient plutôt des voix masculines en général et plutôt des voix aiguës. Bon, le meilleur exemple, ça c'est un petit peu plus tardif, c'est des gens comme Prince ou Michael Jackson, c'est des voix très aiguës. Donc moi en fait, la musique que j'ai faite en premier, c'était une époque où se développait à l'initiative de Miles Davis, et c'était du jazz rock en fait, une fusion entre le jazz et le rock. Donc j'ai fait à la fois du rock, j'ai fait du jazz, et j'ai aussi été, je suis né en fait dans une époque où on faisait, il y avait cette utopie du festival Woodstock. Voilà, moi je suis la génération d'après Woodstock, et je dois avouer que j'aimais beaucoup la musique planante, et principalement les Pink Floyd. Ça, j'étais un fan absolu des Pink Floyd. Et quelque part, c'est pas absurde par rapport du tout à la musique ancienne, parce que moi, j'ai commencé pendant 5 ans, au moins 5 ans de ma carrière professionnelle, à ne faire quasiment que de la musique médiévale. Donc, j'ai chanté énormément de plein chant. Dans ma tête, il y a vraiment qu'une seule musique. Par contre, il y a cette chance que j'ai eue, moi, d'avoir une voix que j'appellerais caméléon. C'est-à-dire, sans même y penser, selon le type de musique que je vais faire, si je chante du jazz, si je chante de la musique médiévale, si je chante de la musique baroque, je vais changer d'émission vocale. Ça, je pense que c'est simple. Tout est parti de cette facilité technique que j'avais de pouvoir me plonger, m'immerger dans chacun de ces univers.
musique au cœur, toutes les musiques, Gérard Lenne anime et dirige également un ensemble, il Seminario Musicale, dont il nous rappelle la genèse.
En réalité, ce groupe est né sans que je souhaite forcément le continuer par la suite. C'est-à-dire que on m'a proposé d'enregistrer des cantates de Vivaldi. Bon, on l'a fait, ça s'est bien fait, très bien passé. On a eu un accueil extrêmement favorable de la presse. Et à partir de là, c'est vieux, c'est 85. Je travaillais beaucoup, c'était le début de ma collaboration avec les Arts Florissants. Je continuais à faire de la musique médiévale à ce moment-là. Je continuais à travailler avec René Clemenchik. Je travaillais beaucoup. Et donc, j'avais peu de temps à consacrer à cet ensemble. Mais, je dirais entre 85 et 90, on a eu quand même de quoi entretenir le nom de l'ensemble avec quelques concerts par an. Et puis en 89 plus exactement, j'ai eu, par un autre petit éditeur, parce que tout ça s'est fait chez des petits éditeurs, donc l'opportunité d'enregistrer un disque toujours d'Antonio Vivaldi, mais de musique sacrée avec le Stabat Mater, enfin les grands motets, Stabat Mater. Alors pareil, ce disque a été incroyablement bien accueilli par la critique et surtout, il m'a donné une opportunité qui a changé ma vie, c'est de rencontrer un personnage tout à fait exceptionnel qui s'appelle Olivier Tcherniak, qui est un mélomane, mais grand mélomane, et qui dirigeait et puis dirige de nouveau, parce qu'entre-temps il est parti, la Fondation France Télécom. Et à cette époque, en 90, c'était l'utopie, dans le bon sens du terme, c'était l'utopie sur le mécénat culturel. Et donc, j'ai eu des moyens, mais en 90, d'un seul coup, énormes. J'ai eu des moyens colossaux à ma disposition. Et moi, je menais ma vie avec les autres ensemble, hein, que ce soit le Collegium, tous ces gens. Et j'ai dû faire un choix. Bon, ça s'est imposé à moi très très vite. Hein. Donc en l'espace d'un an, j'ai quitté ces ensembles. De toute façon, j'étais intermittent chez eux. Hein, pour me consacrer à 90% à Seminario. Petit à petit, je pense qu'on a développé quelque chose de bien précis à nous et surtout à ma façon d'envisager le chant. Mais tout ça sur 10 ans. Et c'est vrai que maintenant, après 30 disques, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir posé quelque chose que j'espère dépasser les limites strictes de la musique baroque. Simplement une façon d'exprimer la voix avec le maximum de simplicité. Et c'est ce qui me permet de passer d'un genre à un autre. Tout ça, c'est un faux problème. Moi, je me bats contre ça. J'ai l'impression de me battre contre des moulins, mais c'est comme ça. Hein. Moi, j'écoute la musique de mon fils de 13 ans, mais pas parce que je veux écouter, mais parce que c'est ma musique. Je suis de mon siècle. Et je pense que, à ma façon, je crois que je suis un musicien du 21e siècle, quoi, j'espère. C'est-à-dire que j'ai conscience de mon passé, mais je sais que ce passé-là, il est mort, il est très beau, il faut le garder en vie, il faut le ressusciter tout du moins, mais il faut aller de l'avant, quoi. Et moi, je vais de l'avant en écoutant plein d'autres choses, en faisant plein d'autres expériences.
Justement, donc, on parle de ces passerelles entre les différents styles, et finalement, vous avez dit vous-même qu'il y avait une musique et non pas des musiques, d'une certaine manière. Est-ce que d'autres arts, par exemple, vous inspirent également ?
Énormément, et c'est comme ça que mon disque jazz est construit. Non, on avait un problème avec ce disque jazz, c'est que avec ces étiquettes qu'on me mettait sur le dos, c'était très difficile, il fallait qu'on ait un thème très très fort. Donc mon pianiste, on se connaissait depuis 3 ans, donc il a écrit des thèmes, il connaissait très bien ma voix, il avait dans la tête le disque que j'avais fait sur Charpentier, donc, mais il a fait des thèmes jazz, complètement jazz. Sans aucune concession, 10 thèmes. Il m'a donné les 10 thèmes, moi là-dessus j'ai enregistré une voix témoin, simplement une voix comme ça, et puis j'ai demandé à ma femme de trouver une couleur par thème. Donc voilà, ce thème il sera bleu nuit, ce thème il sera marron, ce thème il sera jaune, vert, voilà. 10 couleurs. Et puis à partir de là, je me suis dit, je vais écrire des poèmes sur ces couleurs. Et puis c'était trop complexe d'écrire poème sur une couleur, vous n'allez pas très loin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme je, en dehors de la musique, j'ai eu, dans une autre vie surtout, un intérêt absolument énorme pour la peinture, à la fois, je dirais, la peinture classique, mais remontant, je dirais, à la peinture médiévale jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai eu cette histoire-là, je connaissais bien la peinture. Je me suis dit, sur chacune des couleurs, je vais associer un tableau. Et puis, j'ai fait un poème tout de suite en anglais. Parce que, pour moi, comme on parlait de la culture dominante de l'Italie au XVIIe siècle, culture dominante est le jazz, pour moi, il est de langue anglaise, sinon c'est autre chose. Pour moi, j'y crois pas. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis le disque, il a son unité. Donc pour répondre à votre question, c'est un exemple, mais c'est très fort pour moi. Et au moment où j'ai écrit ces poèmes, je repense à quelque chose qu'a dit Charles Élie Couture il y a très peu de temps, au moment où il est arrivé en France pour défendre son album là qui sortait. Il a dit, moi je suis parti à New York parce que en France on vous met une étiquette sur le crâne et on n'en sort plus, quoi. Et moi, ce qu'il disait lui, quand j'écris un livre, je ne suis qu'écrivain. Quand je fais une chanson, je ne suis que chansonnier, enfin compositeur. Quand je peins, je ne suis que peintre. Mais moi, je me suis complètement... J'ai dit, mais merde, c'est ça, quoi. La vie, c'est ça. J'ai ça en moi. Je suis un bricolo de l'art, moi. Je suis un artisan. Et j'aime faire plein de trucs. Il faut arriver à imposer, à travers ça, l'extrême qualité. Sinon, bien sûr, on va vous mettre tout de suite à la poubelle, quoi. Mais les gens, par exemple, les gens vont venir m'écouter au New Morning pour Colors, alors que j'ai fait l'expérience il y a quelques jours de ce concert avec ce type qui improvisait, qui ne connaît que le jazz, lui, qui sait même pas ce que c'est qu'une voix aiguë dans le classique. Il a jamais entendu ça. Il m'a entendu. Il avait des yeux comme ça. Il est venu me voir. Mais c'est hallucinant ce que tu fais. Même lui, il faisait pas la relation. Mais je lui dis, mais attends, t'as la même voix que moi. Si tu fais la même chose que moi. Bon, mais comme quoi, hein, les fermetures, elles sont partout, quoi. Hein. Bon, moi qui suis un tout petit peu au-dessus, parce que ma vie a fait que j'ai connu tous ces univers-là, fait que je suis libre par rapport à tout ça. J'ai aucun clivage. Voilà, je pense que c'est ça.
Voilà, c'était Culture sans frontières. Merci à toute l'équipe de production pour la réalisation et la mise en onde. Bon vent et à la semaine prochaine.